SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mardi 26 mars 2024 sur SBS Audio, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laure Prouveau, une artiste ancrée dans son temps. Prix Turner 2013, elle est à Melbourne pour l'ouverture de son exposition We Move In You à l'Australian Centre for Contemporary Arts. Christophe Mallet l'a interviewée, c'est dans un instant, mais d'abord on commence avec le journal. À la une de ce journal, Julian Assange va-t-il être extradé vers les États-Unis ? La justice britannique tranche aujourd'hui quant à la possibilité du lanceur d'alerte australien de faire appel. Vladimir Poutine s'exprime pour la première fois depuis vendredi. Pour le président russe, nul doute qu'il est derrière l'attaque qui a fait plus de 139 morts en banlieue de Moscou. Vous l'entendrez, une bonne et une mauvaise nouvelle pour Donald Trump qui continue son marathon judiciaire à quelques mois de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et enfin, top départ de la Rip Curl Pro Bells Beach, l'une des plus grandes compétitions de surf en Australie. Kelly Slater a remporté sa première manche. On en parle en fin de JT et juste avant le journal des sports signé Christophe Mallet. Jour J pour Julian Assange qui joue sa dernière chance pour éviter l'extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks saura ce soir s'il peut faire appel ou non selon une décision des juges au Royaume-Uni. On le rappelle, l'Australien est poursuivi pour espionnage après une fuite massive de documents à partir de 2010. S'il est extradé, le lanceur d'alerte de 52 ans risque jusqu'à 175 ans de prison. On écoute le sénateur libéral Simon Birmingham qui lui aussi attend la décision de la justice britannique.
I trust the British justice system. Our own justice system was built upon the fundamentals of the British justice system. Yes, Mr. Assange's case has gone on for a long time, but the reality is it has gone on for a long time in part thanks to the many, many years he spent in the Ecuadorian embassy, the various appeals process that he's totally entitled to pursue, but which have also added to the length of the proceedings.
En cas de défaite, Julian Assange saisirait la Cour européenne des droits de l'homme dans l'espoir de faire suspendre cette extradition. C'est ce que déclare son épouse Stella Assange. Sa défense met également en avant un risque de suicide s'il était extradé. Qui est à l'origine de l'attentat près de Moscou qui a fait plus de 139 morts vendredi ? Pour Vladimir Poutine, peu de doute, les quatre membres du commando sont des islamistes radicaux. Le président russe s'exprimait pour la première fois depuis l'attaque. Il maintient dans le même temps que les assaillants sont liés à l'Ukraine, malgré la revendication de l'État islamique.
Nous savons que le crime a été commis par des islamistes radicaux avec une idéologie que le monde islamique lui-même combat depuis des siècles. Nous voyons également que les États-Unis, par divers canaux, tentent de convaincre leurs satellites et d'autres pays du monde que selon leurs données de renseignement, il n'y aurait aucune trace de Kiev dans l'attaque terroriste de Moscou, que l'attaque terroriste sanglante a été perpétrée par des adeptes de l'islam, membres de l'organisation État islamique interdite en Russie. Nous savons par qui l'atrocité a été commise contre la Russie et son peuple. Ce qui nous intéresse, c'est qui est le commanditaire. Il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leurs crimes, ont essayé de partir en Ukraine. Qui les attendait là-bas? Une chose est absolument claire, le terrible crime commis le 22 mars dans la capitale russe est un acte d'intimidation, comme je l'ai déjà dit. Et la question se pose immédiatement de savoir à qui il profite. Cette atrocité ne peut être qu'un maillon dans toute une série de tentatives de ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays par les mains du régime néo-nazi de Kiev.
Voilà Vladimir Poutine, président russe, un discours immédiatement contredit par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a traité le chef du Kremlin de créature cynique et malade. Sur le front, les difficultés s'accumulent. Pour l'armée ukrainienne, un responsable militaire a avoué hier que la situation était difficile près de Tchassivar, cette ville à côté de Barmout, aux mains des Russes depuis plusieurs mois. Un conseil de sécurité de l'ONU a soudé pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour la durée du Ramadan, et ce pour la première fois en pratiquement 6 mois de conflit. Une résolution a été votée dans ce sens, ainsi que pour la libération inconditionnelle de tous les otages retenus par le Hamas. Une même voix ou presque, donc seuls les États-Unis se sont abstenus. Malgré cette dissidence, Antonio Guterres réclame l'application de cette résolution. Le secrétaire général des Nations Unies était en Jordanie hier en déplacement dans un camp palestinien. Il en a profité pour rappeler l'importance du rôle de l'UNRWA, l'office de secours pour ces réfugiés. Les précisions sont signées Oriane Verdier pour Radio France Internationale.
Depuis 4 jours, les demandes de l'UNRWA auprès des autorités israéliennes pour accéder au nord de Gaza sont rejetées sans raison, selon l'agence. La population dans la zone dépend pourtant de ces convois pour survivre. Depuis un camp de réfugiés en Jordanie, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé que l'UNRWA était une source d'espoir et de dignité pour la population.
La décision de ne pas permettre aux convois d'aller au nord de Gaza.
La décision de ne pas autoriser les convois de l'UNRWA à se rendre dans le nord de Gaza, où la situation de famine est dramatique, est totalement inacceptable. Ceux qui ont pris cette décision doivent en assumer la responsabilité face à l'histoire et les conséquences de cette décision au regard de la situation dramatique dans laquelle vit la population du nord de Gaza. Il y a déjà des enfants qui meurent de faim là-bas.
We have already children dying of hunger.
Côté israélien, pas de retour en arrière. Le porte-parole du gouvernement a annoncé ce lundi l'arrêt de la collaboration d'Israël avec l'UNRWA dans toute la bande de Gaza.
Et de son côté, Donald Trump devant la justice de New York hier, l'ancien président américain et candidat républicain à la prochaine présidentielle devait rouvrir 2 dossiers. Dans l'un d'entre eux, il a appris une mauvaise nouvelle, mais dans l'autre, une bien meilleure. Les explications de Guillaume Nodin, RFI.
La bonne nouvelle pour Donald Trump, c'est que ses biens, ses actifs mobiliers et immobiliers ne seront pas saisis dans l'immédiat. Il avait jusqu'à ce lundi pour présenter une caution sur les 454 millions de dollars d'amende auxquels il est condamné au civil dans l'affaire de la surévaluation de ses propriétés. Ses avocats avaient annoncé la semaine dernière qu'ils n'avaient trouvé aucune société pour garantir une telle somme. Finalement, le juge a décidé de faire baisser le montant de la caution à 175 millions de dollars, une somme plus accessible pour Donald Trump qui a 10 jours supplémentaires pour présenter une caution. Il va y arriver parce qu'il dispose de ses liquidités, ce qui n'était pas forcément le cas pour la totalité de l'amende à laquelle il est d'ailleurs toujours condamné. La moins bonne nouvelle, c'est que son procès au pénal dans l'affaire Stormy Daniels ne sera pas repoussé davantage. Il commencera bien le 15 avril. Dans cette affaire, Donald Trump risque la prison pour avoir falsifié les comptes de ses sociétés afin de payer l'actrice porno pour acheter son silence au sujet d'une relation sexuelle qu'il continue de nier. Sa stratégie de report, possiblement au-delà de l'élection présidentielle, est donc en échec dans ce cas précis. Mais elle fonctionne jusque-là pour ses 3 autres procès au pénal qui n'ont toujours pas de date de début.
Dans un tout autre registre, on va parler surf à présent avec les débutantes attendues par les amateurs de planches de la Rip Curl Pro sur les vagues de Bells Beach dans le Victoria. Dans l'eau, on pourra voir le multi-champion du monde Kelly Slater ainsi que 16 Australiens dont le champion en titre Ethan Ewing. On écoute Kelly Slater après avoir remporté sa première manche ce matin.
Feeling pretty good. A little time off for me, and I actually worked on boards, and this is the board I was kind of working on. It's the same one I wrote at Kira. You might have seen a couple waves I got.
Yeah.
We were talking about that before, but it's a Mike Wu design, and my buddy Trinko in Hawaii finished it off for me.
And then Steve Eichner glassed it up in a couple days for me. So just last second, I was able to get him before flying to Australia.
La question sur toutes les lèvres, est-ce que c'est la dernière fois que nous voyons Kelly Slater sur la Rip Curl Pro? Pas d'infos à ce sujet pour le moment. On rappelle que le surfeur américain de plus de 50 ans, 52 ans précisément, a été sacré 11 fois champion du monde. Et pour plus d'actualités sportives, c'est dans un tout petit instant avec le journal des sports signé Christophe Mallet, juste après un point sur la météo de ce mardi après-midi. À Melbourne, non loin de là où se déroule la compétition justement, il fait assez frais, 21 degrés seulement, similaire à Hobart en Tasmanie, 20 degrés. Il fait plus chaud dans le reste de l'Australie, 25 à Adelaide, 26 à Brisbane, 27 à Sydney, 28 à Canberra, comptez 30 à Perth et de la pluie certes, mais 31 à Cairns et 33 degrés à Darwin. Le rappel des titres, la justice britannique va trancher mardi quant à la possibilité de Julian Assange de faire appel de son extradition vers les États-Unis. Et trois jours après l'attaque meurtrière en banlieue de Moscou, Vladimir Poutine admet finalement que l'attaque a été commise par des islamistes radicaux, tout en rejetant indirectement la faute sur l'Ukraine.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports, en ce mardi, on débute avec du football et la défaite des Bleus face à l'Allemagne, 2-0. L'Allemagne, véritable bête noire de l'équipe de France, comme nous l'explique Babacar Diarra.
La Mannschaft est venue s'imposer à Lyon 2-0 face à l'équipe de France. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Didier Deschamps ont couru derrière au score, surpris par la frappe de Florian Wirtz. Après 7 secondes de jeu, Kai Havertz d'Arsenal a aggravé le score à la 49e. Une claque pour les Français, déjà battus par le pays hôte de l'Euro en septembre dernier. Titulaire dans les cages hier au Groupama Stadium, Brice Samba n'est pas accablé par cet avertissement.
Non, je pense que c'est un état général de ce soir. Je pense que ça, ce but signifie bien la soirée, entre guillemets. Voilà, on n'était pas prêts et ils mettent un beau but et bravo à eux. Non, bien sûr, c'est toujours bon de... Voilà, je pense que c'est plus une piqûre de rappel dans le sens que voilà, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait ce soir pour pouvoir jouer face à un tel adversaire. Maintenant, on est des grands garçons, on a tous conscience de ce qui s'est passé ce soir. Voilà, on va analyser cela avec le coach, avec tout le monde et on verra ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, on sait très bien qu'on n'a pas montré notre vrai visage ce soir et on va tâcher de réparer ça dès mardi.
Et c'était Brice Samba, donc le joueur de l'équipe française des Bleus. Donc, autre réaction, celle du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud. Malgré cette défaite, il n'est pas inquiet pour le match contre le Chili ce soir.
La défaite, ça doit faire mal. Et après, faut pas noircir tout le tableau. On s'est créé quand même des occasions, même si on a eu du mal à réagir. Mais ouais, quand on n'est pas à 100%, notamment dans les duels, dans l'agressivité, et aussi sur certains aspects peut-être dans le jeu, ouais, y a des choses à corriger, à améliorer. Mais encore une fois, il faut mettre le bleu de chauffe chaque match, notamment contre des équipes comme ça. Il faut dire les choses, mais tout n'est pas à remettre en question. Il faut se remettre dès mardi au travail. Je suis pas plus inquiet que ça.
Olivier Giroud. Donc les Bleus, je vous le disais, rencontrent le Chili ce soir dans un deuxième match amical. On continue sur le football et la défaite de l'Angleterre 1-0 face au Brésil, une première depuis 2020. On écoute Gareth Southgate, l'entraîneur anglais.
C'était un match de très haut niveau. On l'a contrôlé la majeure partie du temps et on a eu autant d'occasions de marquer que les Brésiliens. Malheureusement, c'est cette action en fin de match qui décide du score de la rencontre. Mais j'ai vu des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience internationale faire un bon match, faire de très bonnes choses sur la pelouse, des performances individuelles qui sont très importantes pour nous.
Gareth Southgate, donc l'entraîneur anglais. Les espoirs, quant à eux, ont fait match nul de partout face aux États-Unis. Avec un point noir, la blessure de Bradley Barcola, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Ce qui embête au plus haut point l'entraîneur donc des Espoirs Bleus, Thierry Henry.
Ben, il est rentré au club, c'est chiant. C'est chiant parce qu'on fait attention. Mais là, il n'y avait pas d'alerte. Donc c'est dommage pour lui, son club, et aussi ce qui arrive. On sait très bien le match qu'il y a ce week-end. On va pas rentrer dans les détails et puis ce qui vient après. Donc voilà.
Thierry Henry, donc grand international français, Thierry Henry, et qui est maintenant l'entraîneur des Bleus Espoirs et entraîneur de l'équipe de France Olympique. Vous savez, les Jeux Olympiques arrivent très bientôt à Paris. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, eh bien, on connaît le tirage au sort des matchs de poule pour les hommes et les femmes en football toujours, comme nous l'explique Éric Diramzian.
Rien d'insurmontable effectivement pour les deux sélections tricolores. Les hommes de Thierry Henry affronteront les États-Unis le 24 juillet à Marseille, puis la Guinée ou un pays asiatique le 27 juillet à Nice et la Nouvelle-Zélande de nouveau à Marseille le 30. Les féminines, elles, feront face aux Colombiennes à Lyon le 25 juillet, aux Canadiennes à Saint-Étienne le 28 et aux Néo-Zélandaises encore à Lyon le 31, pas de quoi faire peur donc a priori aux joueuses d'Hervé Renard, même si le sélectionneur se garde de tout excès de confiance.
Sur le papier, c'est toujours plus facile de donner des notes, les favoris, les non-favoris, mais ça se passe rarement comme on a décidé avant, à quelques rares exceptions près. Donc on a déjà l'équipe championne olympique en titre, ça faut pas l'oublier, le Canada, la Colombie qui a réussi une magnifique Coupe du Monde, en battant l'Allemagne notamment. Une équipe très athlétique, comme le devient le football féminin mondial. Et puis la Nouvelle-Zélande qui avait réussi à battre en match d'ouverture de la Coupe du Monde la Norvège. Voilà, à respecter. Mais bien sûr, quand on a des ambitions et qui plus est à domicile, eh ben, il faut affronter les meilleurs pour aller le plus loin possible.
Et c'était Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe féminine des Bleus, qui a vraiment grand espoir, un de nos grands espoirs de médaille pour les Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Orangé, le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi.
La chanson Orangé, interprétée par Roméo Elvis. Allez, on marque une très courte pause sur SBS Audio. À tout de suite.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
C'est quand ce reportage en ce mardi direction le nord de la France, et malgré l'hiver et toute une série d'échecs, eh bien des migrants sont toujours déterminés à traverser la Manche. En baisse de 30% entre l'année 2022 et 2023, les traversées donc de la Manche pour les migrants repartent à la hausse en ce début d'année 2024, et ce malgré des conditions hivernales et une eau à 9 degrés. C'est le constat que font les associations engagées auprès des exilés dans le nord de la France. 9 décès dus à des naufrages ont été recensés depuis le début de l'année. Mais ni ces tragédies, ni la forte présence policière, ni même des échecs répétés ne dissuadent les candidats au départ vers le Royaume-Uni.
Bonjour.
Comme chaque lundi, c'est jour de distribution alimentaire par les bénévoles de l'association Salam.
Là, ils sont au moins 400.
Une longue file d'attente s'est formée sur ce terrain vague boueux. Ici, plusieurs dizaines de migrants tuent le temps en attendant de saisir leur chance, celle de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Abdoul est afghan, il a 19 ans et il en est déjà à sa troisième tentative.
On a essayé de traverser la nuit dernière à bord d'une embarcation, mais la police est arrivée et a percé le bateau. Et donc nous sommes retournés ici, dans ce camp. La fois précédente, le bateau n'est jamais venu. Et puis une autre fois encore, nous sommes restés 4 heures en mer et le moteur a lâché. C'était terrible, il n'y avait personne pour nous aider. On a attendu que la police vienne nous secourir. On les a appelés 3, 4, 5 fois. Aidez-nous, aidez-nous, parce que le moteur du bateau ne fonctionnait plus. Ils sont venus, mais tellement tard, au bout d'une heure et demie.
Sa demande d'asile en France a été rejetée 2 fois. Le Royaume-Uni est donc sa prochaine destination, d'autant qu'il parle anglais et son oncle y vit.
Nous allons retenter, encore et encore. Si Dieu le veut, nous y arriverons. Nous irons au Royaume-Uni.
Quand il y a échec, les migrants se retrouvent livrés à eux-mêmes, dans la nuit, souvent mouillés, divaguant dans le froid. C'est là qu'intervient Thomas, bénévole à Utopia 56.
Là, dans la voiture, on a des vêtements enfants, des vêtements femmes. En fait, on a de quoi rhabiller de la tête aux pieds, en général, à peu près 80 à 90 personnes.
Après une heure de maraude, le bénévole repère 30 migrants. Il est 4 heures du matin. Le groupe remonte de la plage en longeant une route nationale.
Très mal, voilà.
Un homme s'avance en boitant. Il se plaint de douleurs aux pieds.
Regardez-moi, voilà, beaucoup mal. Regarde, oui. Parlez ambulance, s'il vous plaît.
On peut appeler une ambulance.
Oui.
Pour aller à l'hôpital.
Oui.
Mais nous, on ne peut pas t'amener quelque part. Est-ce que vous êtes tombé dans l'eau?
Oui. Water, bah oui, look. Water.
Les forces de l'ordre ont empêché un départ en mer du groupe composé de familles avec parfois de très jeunes enfants. Alexis, l'autre bénévole, se démène pour leur trouver un hébergement d'urgence.
It's closed.
Mais l'hôtel le plus proche est fermé. Il fait 2 degrés, des habits secs et chauds leur sont distribués.
Et on essaie toujours de faire quelque chose, quoi. Même si le 115 répond pas, même si l'hôtel est fermé, bon ben on fait quelque chose de minimum pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls.
Sur la plage, un sac à dos abandonné, le témoin d'un départ précipité. Cette nuit-là, 320 migrants réussiront à rallier le Royaume-Uni.
Deuxième reportage maintenant. L'islam est la deuxième religion de France. Pourtant, de nombreux Français de confession musulmane ont du mal à effectuer leur culte dans de bonnes conditions. Et pour cause, il y a seulement 2600 mosquées et salles de prière dans le pays pour plus de 5,4 millions de musulmans. L'exiguïté des mosquées, en particulier celle de la capitale, ne permet pas d'accueillir dans de bonnes conditions les fidèles. Durant la période de jeûne, les mosquées enregistrent une forte affluence, comme c'est le cas de la mosquée de Javel, dans le 15e arrondissement de la ville de Paris.
Comme tous les vendredis, jour de la grande prière, les fidèles sont nombreux à se rendre à la mosquée de Javel. Une longue file d'attente s'est déjà formée devant ce lieu de culte. Parmi les fidèles, Abdallah, un habitant du 15e arrondissement, qui déplore le fait qu'il n'y ait pas assez de place.
Tout simplement, il faut de la place parce qu'on prie en 2 fois, on est très serré, on n'est pas à l'aise, c'est très compliqué. Le mois de Ramadan, c'est encore pire. On fait la prière le plus rapidement possible pour qu'on ne touffe pas à l'intérieur de la mosquée.
Pour avoir plus de chances d'accéder à la première prière, ce jeune homme, qui travaille dans le quartier, est arrivé bien avant l'heure.
Il faut venir très très tôt pour pouvoir prendre la queue assez tôt, parce que sinon, moi par exemple, je suis venu à la base pour la première prière, sauf que j'étais venu 45 minutes à l'avance, mais on nous a arrêtés au début. En nous disant qu'il n'y a plus de place, on a dû attendre jusqu'à celle de 14h.
Le manque de place, les responsables des lieux de culte essaient de le pallier en organisant plusieurs offices d'affilée. Najat Ben Ali, rectrice de la mosquée de Javel.
Malheureusement, dans le sud parisien, on est très mal desservi en matière de lieux de culte musulmans. C'est la seule mosquée du sud-ouest parisien. Donc du coup, on a un premier office où nous avons que des hommes qui prient, dans la mesure où en fait c'est 90% des personnes qui viennent. Donc là, c'est la file d'attente, effectivement, la très grosse file d'attente pour le deuxième office. Et évidemment, nous avons dans le deuxième office les hommes qui prieront, mais également les femmes qui ont une grande salle qui leur est dédiée.
Fatima vient d'effectuer sa prière. Venue du 16e arrondissement de Paris, elle dit comprendre néanmoins la situation.
Le manque de place à Paris, notamment, parce qu'en province, il y a plus de place. Les salles de prière et les mosquées sont plus grandes. C'est vraiment différent. Ici, c'est la capitale, donc une ville urbaine, donc pas de terrain à bâtir, à vendre. Donc pour les salles de prière, c'est un peu plus compliqué. C'est assez exigu, mais on fait avec.
Cette année, l'ouverture d'un local en renfort est prévue pendant le Ramadan pour éviter des prières de rue, comme l'indique Najat Ben Ali.
Pour la période du Ramadan, on va avoir un site temporaire dans lequel on va pouvoir rediriger une partie des flux du sud parisien pour permettre la déportation des flux du 14e et du 15e de ce côté-là vers ce site-là et essayer d'équilibrer. Mais si vous voulez, ça c'est vraiment une solution de transition pour éviter des troubles à l'ordre public.
Le taux de surfréquentation des mosquées en Île-de-France est de l'ordre de 40 à 50% pendant le mois sacré du Ramadan.
Allez, dernier reportage en ce mardi, le casse-tête des congés maternité pour les femmes mères. C'était sur le devant de l'actualité il y a quelques semaines. Avec seulement 20% de femmes à la tête des mairies de France, les exécutifs municipaux ont du mal à faire une place aux élus qui souhaitent devenir maires. C'est ce vide juridique qui est dénoncé par de nombreux élus en France. Cela fait suite à l'appel de la maire Écologie Les Verts de Poitiers. La question fait l'objet d'un texte qui est en train d'être étudié au Sénat. Pour l'heure, les salaires de ces élus ne sont pas maintenus pendant la durée légale du congé maternité et leur intérim n'est pas correctement assuré. Cela implique donc des choix à contre-cœur très difficiles.
Des gazouillis plutôt inhabituels viennent du bureau de la maire de Juvisy-sur-Orge. Pendant que Lamia Bensarsareda travaille, son directeur de cabinet surveille sa petite fille de 3 mois.
Évidemment, c'est un choix qui est difficile, c'est un choix que j'assume. Ça demande, on va dire, beaucoup d'abnégation et de parfois de laisser de côté un peu ce qu'on peut ressentir.
Ouais, toi, t'es réglé comme du papier à musique.
Ouais, hein,
on peut pas te la faire. Hein.
Elle s'en fout de où elle mange. Hein. Ouais. Sans doute que ce qui m'a le plus gênée, c'est de montrer cette image-là culpabilisante pour d'autres femmes qui, elles, ont besoin de plus de temps et de prendre soin d'elles et de prendre soin de leur bébé. Moi, je ne souhaite pas montrer aux femmes qu'elles doivent être des super-héros et c'est effectivement des sacrifices et des compromis. Ce qui, disons, permet de les faire, c'est de se dire qu'on est utile. Je crois qu'elle, elle s'est adaptée, tout comme son frère s'est adapté. Ce sont des enfants qui ont intériorisé qu'il fallait qu'ils s'adaptent. Ma chance, c'est d'avoir été très entourée.
Moïse Fournier, directeur de cabinet du maire de Juvisy-sur-Orge. L'intérêt pour nous qui sommes à ses côtés, c'est de pouvoir continuer le service public en étant notamment maître de l'agenda. On n'organise pas des réunions à 7h30 le matin ou à 20h30. On avait tout ça en tête, d'être un petit peu protecteur pour qu'elle puisse profiter de ce moment qui est quand même unique et qui est merveilleux, quoi. Voilà.
Partir en congé maternité voudrait dire perdre son indemnité de mère et prendre le risque de retarder des dossiers importants, puisqu'aucun intérim officiel n'existe. Sophie Rigaud, la maire d'hiver droite de Saint-Michel-sur-Orge, également vice-présidente du département de l'Essonne, en a aussi fait les frais en accouchant d'un petit garçon l'été dernier.
Moi, j'ai inauguré mon village vacances le lundi, j'ai accouché le jeudi matin à 2h59. Alors, on pourrait me dire, vous l'avez choisi. Pas forcément dans ces conditions. Je pense qu'il manque en fait un vrai congé maternité identifié comme pour n'importe quel salarié en fait. Donc là je pense qu'il y a urgence à agir pour notamment les élus qui suivent, qui doivent s'organiser avec leur employeur. Il faut avoir cette capacité à pouvoir justement avoir du temps libéré.
À 2 ans des municipales, ces deux élus attendent plus de représentativité dans les mairies, avec des femmes qui s'engagent plus jeunes et n'attendent pas d'avoir fondé leur famille pour entrer dans la vie politique.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Quand au fond du camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre salut de l'obéité. Como a menudo te piden, sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú.
La chanteuse Olivia Ruiz sur les ondes de SBS Audio avec sa chanson Le Sel. On vous en parlait en sommaire. Rencontre autour d'un café avec Laure Prouveau, une artiste ancrée dans son temps, honorée du Turner Prize en 2013. Elle est actuellement à Melbourne pour l'ouverture de son exposition We Move In You au ACA, l'Australian Centre for Contemporary Arts. Christophe Mallet l'a rencontrée. Interview.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le grand plaisir d'être assis ici, justement, dans la cour du café à ACA avec Laure Prouveau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on profite bien du soleil. Par contre, un petit peu de stress, j'imagine. Ouverture de votre présentation ce soir. À quelques heures de ça, comment on se sent ?
On se sent joyeuse, excitée, un peu nerveuse aussi. C'est beaucoup, beaucoup de, d'énergie ensemble, beaucoup de collaboration. Alors il y a la collaboration avec les éléments, avec la matière de l'exposition, les lumières, le sol, les gens qui arrivent. C'est beaucoup de tout le monde est un petit peu sensible, quoi. Les murs sont, vous sentent là, ils vous attendent, donc tout est un petit est très délicat et fragile, et mais plein de joie de vous accueillir.
On va être un peu pragmatique. Si le chemin a été relativement long pour arriver à ouvrir cette exposition pour vous sous votre nom, c'était prévu de longue date. Il y a eu le Covid. Et au final, on a une exposition qui n'aurait pas été la même, une exposition qui est complètement nouvelle. Parlez-nous un petit peu de tout ça, cette expérience pour vous.
Oui, alors ça a été incroyable parce que l'expo devait ouvrir en 2020. Donc c'est assez rare d'avoir cette longévité de dialogue avec une institution, avec un lieu de travail. Et donc ça a été, mais ça a été magnifique parce que pendant le Covid, on s'est beaucoup parlé, on a eu beaucoup d'échanges entre... la Kunsthal Charlottenburg, Copenhague et ici, parce que c'était une œuvre qui a été produite par les deux. Et donc, on avait ce dialogue qui traversait les frontières comme ça. D'un seul coup, on pouvait rester en dialogue, en connexion et parler de ce qui se passait. Donc, là, c'est vrai que là, l'expo a complètement évolué vu que je montre surtout des œuvres qui ont été créées depuis post-Covid ou pendant le Covid. Donc ça aurait été une expo très différente à l'époque. Et donc là, j'ai eu un bébé. Donc on donne naissance ici dans l'exposition. Vous devez pousser travers les rideaux et là you'll give birth and you'll be. On sera ensemble à care to care pour cette nouvelle vie qui commence. Donc ça a été un peu l'idée de la nouvelle vie aussi, une nouvelle vie qui commence. Est-ce qu'on peut repenser notre société? Est-ce qu'on peut réimaginer des façons de vivre, de travailler, un début de vie comme l'humain qui devient mammifère et qui monte sur les rives, qui est petit poisson dans le ventre d'une maman au début. Et donc tout ça, c'est des choses qui ont évolué, qui sont arrivés post-Covid, comme ça. Enfin, après, c'est toute l'humanité depuis toujours, mais le sujet, bien sûr, a été. Ont évolué là.
Et ce Covid, justement, on en parlait quand on s'est rencontrés dans le courant de la semaine. Et c'est vrai que le Covid, il y a tout un côté négatif, on se rappelle, mais il y a aussi un côté peut-être positif. La société, vous le dites, a changé énormément depuis le Covid. Vous, en tant qu'artiste, vous arrivez à tirer du positif aussi d'événements comme ça?
Ça nous remet en question. Après, il y a beaucoup de choses qui sont remises en place aussi assez rapidement.
Ça vous fait peur, ça, d'ailleurs?
Un petit peu. On aimerait avoir eu gardé ce temps un peu plus lent. C'est vrai que je passe d'expo en expo, je fais des choses fantastiques, je bouge encore beaucoup, qui est bien une grande joie d'échange. Mais des moments, on se demande si quand même repositionner. On est reparti quand même à une vitesse très rapide. Il y a une petite œuvre là où c'est un enfant qui parle à sa grand-mère. Grandma, did you know now we can cross the Atlantic in 7 hours? Now, grandma, do you know that I can order sushis and they get delivered in 10 minutes? Donc cet enfant, did you know everything's accelerating and so fast? Donc il est un peu en position là. C'est normal et en même temps c'est pas normal que ce soit si available, si disponible. Mais c'est magique aussi. Donc et puis après j'ai ma grand-mère qui saute d'un avion. C'est ça tous les dimanches. Elle voyez, vous l'entendez, ça c'est elle. Elle arrive. Elle, tous les dimanches, elle va avec son mari dans un avion et elle se déshabille, elle saute toute nue, et elle sent le monde et elle dirige comme une goddess le monde un peu. Elle a cette distance. Et ça, c'était une vraiment qui a été créée post-Covid, vraiment dans l'idée. C'est pendant le Covid aussi l'idée de l'éviter, d'être au-dessus de tout, de pouvoir. On s'est senti assez tiré vers le bas, hein, vers la terre. à ce moment-là. Donc c'était un désir de pouvoir aussi s'évader, imaginer d'autres mondes, imaginer... Et puis avoir de la joie aussi, la joie d'être en vie, la joie de... aussi de la rapidité, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de bonheur dans tout ce qu'on fait, et il y a des contrastes très forts, donc c'est trouver les bonnes façons de protéger, d'aimer ce qui nous entoure, en le protégeant aussi, mais aussi le monde incroyable dans lequel on vit, où on se touche, on se rencontre, toute sorte de société, c'est une évolution extraordinaire, donc ça je trouve que c'est fantastique. Et donc il y a beaucoup aussi de joie, je crois, dans l'exposition, et de laisser notre imaginaire nous porter aussi, je crois que c'est important.
On entend derrière nous la ville vit. Il y a tous les bruits de la ville, il y a les oiseaux, mais il y a aussi de la construction, on entend les hélicoptères. C'est une ville vivante pour vous, Melbourne?
Oui, j'ai beaucoup aimé Melbourne, ouais. C'est une ville tellement cosmopolite et avec des cultures tellement fortes. On a une sorte d'impression d'harmonie entre tous. Après, c'est moi, je viens comme une touriste un peu, hein, qui voit ça. Je sais pas, j'ai pas toutes les complexités, les sensibilités. Mais j'ai trouvé une ville super accueillante avec des gens... ouais, très ouvert, et ça a été un bonheur de travailler ici. Ouais.
Parlons un petit peu de vous rapidement. Si je peux vous résumer, c'est vrai, quand on regarde votre résumé, Turner Price en 2013, en 1944, en 2013, puis il y a eu la Biennale de Venise aussi. À quel point ces deux moments ont changé votre vie, soit personnelle, mais également votre vie d'artiste?
Quand j'ai eu le Turner Prize, je suis devenue française. Donc c'était intéressant parce que j'avais habité 18 ans à Londres, et je me sentais plutôt non. Enfin, je pensais pas à ma nation vraiment. J'aimais, bien sûr, je sais que j'adore ma nation, bien sûr la France, et j'ai beaucoup d'affinités. Je fais partie de cette histoire, mais en même temps, j'avais une sorte de cette liberté de je suis une artiste. Dans le monde, quoi. Et c'était pas... Et d'un seul coup, le Turner Price is French. Tu vois, il y avait un truc. C'est devenu beaucoup plus sur mon identité, d'où je venais.
Ça vous a dérangé, ça, ou pas?
Un petit peu. Et en même temps, après, ça m'a positionné aussi. C'est sûr que je reste toujours... Je fais beaucoup de projets sur No More Frontiers. Je suis beaucoup pour trespasser... Breaking Frontiers, et donc je suis pas trop pour cette idée de limitation d'une nation, mais en même temps on a tous notre culture, et ça c'est pas quelque chose que c'est quelque chose qui me touche, et la culture est quelque chose de qui est très beau, qui soit aussi local et spécifique, et donc ça c'est mais avec cette ouverture vers l'autre, donc ça c'est toutes ces choses qui sont. Et quand j'ai eu après Venise, c'était une magnifique invitation, bien sûr. C'était aussi, on représente la France. Enfin, c'est vraiment représenter une idée et tout ça. Et donc, dans un lieu qui est assez complexe, qui est la Biennale de Venise, où il y a toutes ces histoires aussi coloniales. Enfin, c'est assez compliqué comme endroit. Mais aussi incroyable, parce qu'on peut parler de tout ça, justement. On peut en discuter. On a une audience incroyable, des gens qui viennent de partout, on peut se provoquer les uns les autres, quoi. C'est ça qui est assez beau. Donc c'est vraiment de la provocation, essayer de pousser nos frontières mentales, physiques. Donc ouais, ça a été des moments très importants, ouais, pour moi.
Pour vous, en tant qu'artiste, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir? C'est vraiment quelque chose, l'avenir vous intéresse, vous fait peur? C'est quoi votre relation par rapport au futur, à l'avenir? Pas forcément en tant que mère, mais en tant qu'artiste.
Oui, en tant qu'artiste, je crois pas que j'ai une vision. Je dis pas, I want to write, je veux arriver là, un certain. Il y a pas vraiment cette vision claire. Par contre, je suis très dans le présent, dans le maintenant. Donc, réagir à une situation. Ici, on réagit aux oiseaux qui vivent ici, au dialogue de. Je crois pas que j'ai pas une peur. Je crois qu'on va. J'espère que, enfin, l'humain et avec l'art, avec la communication, on va arriver à être en balance un peu plus avec ce qui nous entoure et peut-être être moins en domination du monde. Je suis plutôt une optimiste. Après, il y a beaucoup de choses difficiles, mais en tout cas, je crois que c'est par l'optimisme qu'on peut progresser, ou qu'on peut évoluer, ou par un désir de changement. Donc, pour mon œuvre, c'est pareil. Je crois, elle évolue avec. Elle est très. Je m'appelle plutôt une traductrice. Elle répond aux. Elle sait traduire des émotions, mon œuvre, ou traduire un moment. Plus que imaginer complètement un futur. Après, là, on voit ma grand-mère qui vole, comme est-ce que nous, on pourrait, dans le futur, est-ce qu'on a. Je crois qu'on rêve tous, enfin, beaucoup de nous rêvent de voler la nuit. Est-ce qu'un jour, on pourra. Ce désir tellement primordial, sans doute, c'est ce qu'on n'a jamais pu, on n'est pas oiseaux. Est-ce que dans le futur, on pourrait devenir oiseaux ? On pourrait. Et je crois qu'il y a, mentalement, il y a beaucoup encore d'évolution qui peut se faire chez nous. Et en étant artiste, je crois qu'on peut transgresser, pousser un peu toutes ces frontières.
Alors justement, j'allais vous poser peut-être une des dernières questions. Vous êtes française, vous habitez en Belgique, dans un quartier comme Molenbeek. Est-ce que tout ce que vous venez de dire, c'est très ancré dans un quartier comme Molenbeek qui a un côté très, très négatif, mais aussi un côté très positif, vraiment une ambivalence. Il y a deux côtés de ce quartier-là, mais la Belgique en elle-même, elle est dans votre cœur. Vous l'aimez, cette Belgique?
C'est une nation assez originale. C'est pas une nation très... elle est complexe, elle a plein de elle a déjà deux ou trois cultures très distinctes, l'allemand, le néerlandais et le français. Donc c'est déjà un lieu où on doit se comprendre et se mélanger, se positionner. Il y a beaucoup de problèmes, c'est difficile, c'est compliqué. Mais il y a aussi beaucoup de magie de devoir passer de langue à langue tous les jours sans qu'il y ait que ce soit naturel. Je crois qu'il y a un côté assez mondial dedans et c'est un pays qui est assez libre de cette représentation de la nation. Je crois les artistes se sentent très, il y a beaucoup de liberté d'espace aussi physique mais mental aussi moins peut-être assez moins contrôlé. Et ça, c'est assez intéressant, je crois, pour les artistes. Et il y a aussi un vrai amour de l'art, je crois. Après, en France aussi, ici aussi, je le vois très bien, mais c'est vraiment culturel là-bas. Je crois que les gens vivent tous avec de l'art chez eux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... C'est un esprit de mécène très, très fort. Donc, c'est assez beau, ça fait vivre et ça... Et puis c'est surréel. The beauty in Molenbeek, c'est un lieu où il y a beaucoup de tensions mais c'est la complexité de ce monde. Et pour moi, c'était important de vivre dans un lieu aussi où on doit se soutenir les uns les autres, se positionner, ouvrir nos portes, se connaître, surtout se connaître et pas se fermer, là, chacun dans nos mondes plus ou moins confortables. Et je crois que c'est la seule façon où on peut faire, on peut évoluer et devenir plus sensible à l'un l'autre sans trop de jugement et en essayant d'ouvrir quand même les perspectives, les libertés, les femmes actives, les femmes. Et là, il y a une grande œuvre qui est sur une pièce qui s'appelle Oma Je. Oma en néerlandais, ça veut dire ma grand-mère. Hein. Oma, je suis grand-mère en allemand aussi. Un hommage aux grand-mères, à ces personnes qui nous auront fait grandir et qui m'ont donné, moi, la possibilité d'être artiste, à d'autres. Donc c'est une œuvre plus directe, mais aussi plus... Qui veut juste dire merci et aussi garder ses portes ouvertes. Et je crois aussi à Molenbeek, c'est très important aussi parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'ont pas la chance de pouvoir être complètement libres de leur choix. Voilà.
Dernière question, il y a une certaine nostalgie dans ce que vous dites par rapport à votre grand-mère, par rapport à cette époque, le lien filial, on le sent ça ou j'extrapole un peu trop?
Ouais, non, c'est pas de la nostalgie, c'est plutôt de la joie, je crois. C'est plutôt parce que je suis grand-mère, I am grandma, I will be grandma, et ça c'est plutôt... être tout, on est tous grands, même mère, même vous. on peut l'être tous, je crois, d'une façon à être... à passer des ouvertures, des façons d'être. Je crois pas que c'est nostalgique, c'est plutôt dans le présent, dans la grand-mère, pas forcément de l'enfance, la grand-mère de maintenant, la grand-mère qui me fait grandir. Là, c'est plutôt ces passages de et aussi de reconnaissance, quoi, aussi de reconnaissance pour évoluer et vivre.
Merci Laure, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Et puis je sais pas comment vous le dire, mais ouais, bonne chance, best of luck, je sais pas le dire en néerlandais pour l'exposition.
Have a good fly, come and fly with us, man. Bien, venez voler, on va s'évader. Merci beaucoup.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Des roses de cristal crissées s'amollissent, mon amour sans rival. Ah, que la vie est belle, ah, que la vie est belle, ah, que la vie, ah, que la vie est belle.
Ah, que la vie est belle de Zao de Sagazan, une chanson que vous avez entendue ce mois-ci sur SBS Audio, le programme en français, puisque cette musique fait partie de notre sélection musicale du mois de mars. Il est 13h passé de 54 minutes, on va passer au rappel des titres. Julian Assange va-t-il être extradé vers les États-Unis ? La justice britannique tranche aujourd'hui quant à la possibilité du lanceur d'alerte australien de faire appel. Vladimir Poutine s'est exprimé pour la première fois 3 jours après l'attaque meurtrière en banlieue de Moscou. Le président russe admet finalement que l'attaque a été commise par des islamistes radicaux, tout en rejetant indirectement la faute sur l'Ukraine. Donald Trump face à la justice à New York, l'ex-président américain a vu sa caution réduite et sa date de procès confirmée à quelques mois de l'élection présidentielle. Et enfin, top départ de la Rip Curl Pro Bells Beach, l'une des plus grandes compétitions de surf en Australie. Kelly Slater a remporté sa première manche ce matin. On ne sait pas si c'est la dernière fois que l'Américain surfe dans le Victoria, mais on rappelle qu'il a été sacré 11 fois champion du monde. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au/french. Et pour les dernières actualités, c'est le site internet de SBS News, sbs.com.au/news. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est jeudi. Même fréquence, même heure. Samedi et dimanche, vous avez également des programmes à 13h. Je vous souhaite de passer un excellent mardi après-midi et je vous laisse sur cette musique intitulée Gnossienne. Bonne journée, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.